Un jour, nous avons été sauvés, sauvés de la perdition éternelle. C'est aussi pour que nous servions la cause meilleure des maîtres. Et ce maître, vous connaissez son nom, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai envie de le dire avec vous en introduction, mais quelle grâce, quel privilège de servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Pour avoir eu un travail séculier, et maintenant en étant en plein temps au service de Dieu, mais quelle grâce! Nous servons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et la Bible dit même le service, c'est-à-dire le simple fait de pouvoir tendre peut-être le verre d'eau au prochain, bien cela, eh bien le Seigneur s'en rappellera et sera même nous récompenser par rapport à cela. Oui, c'est une grâce, un immense privilège de pouvoir servir Dieu. Et servir Dieu, il faut le dire aussi, revêt une grande importance aux yeux de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous rappelle que le Seigneur Jésus, lorsqu'il viendra, justement, il viendra faire la différence entre le juste et le méchant. Il viendra faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quand je pense que Jésus lui-même a pris même des paraboles tout entières pour parler de la nécessité de mettre au service de Dieu le talent qu'il a mis dans chacun d'entre nous. On comprend que ce sujet est vaste et ô combien important. D'où en retour l'importance de nous pencher sur ce vaste sujet qu'est le fait de servir Dieu. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais bien que nous commencions ce thème juste en nous posant une simple question. Quelle est cette question? C'est quoi servir Dieu? En quoi cela consiste? On va juste s'arrêter, c'est une introduction, prenez-le comme vous voulez. C'est simplement répondre à cette question. C'est quoi servir Dieu? En quoi cela consiste? Et puis, donc à cet effet, eh bien, la Bible nous apporte des éléments, j'ai envie de dire, des éléments probants, donc des réponses probantes concernant cette question. Et je voudrais peut-être bien voir deux ou trois points avec vous pour répondre à cette question. C'est quoi servir Dieu? En quoi cela consiste? Et pour ce faire, je vous encourage à prendre avec moi juste un verset qui va être pour nous peut-être un texte d'introduction, mais de base aussi, Jean chapitre 12 et le verset 26. On va lire dans la version Louis II, puis peut-être on va la lire dans une autre version. C'est Jésus qui parle et qui dit à ses disciples, Jean chapitre 12 et le verset 26, je vous laisse le temps de pouvoir chercher la référence. Jean chapitre 12 et le verset 26. Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et il rajoute, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et j'ai envie de dire que toutes les réponses, eh bien, nous les retrouvons eh bien, là, placées dans ce merveilleux verset. Avant d'aller plus loin, on va prier le Seigneur. Vous voulez bien, frères et sœurs, Seigneur, merci pour ta parole. Et toutes les fois où elle vient frapper à la porte de notre cœur, nous voudrions, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur, la recevoir dans nos cœurs. Tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Et nous voudrions, au milieu, au cœur même de nos cultes, la mettre à l'honneur. Viens, Seigneur, nous instruire, viens nous parler, viens nous interpeller durant tous ces dimanches qui vont suivre. Seigneur, nous voudrions nous lever comme un seul homme. Et Seigneur, plus que jamais avant ton prochain retour, Seigneur, que tu puisses nous trouver, Seigneur, faisant, Seigneur, non pas ce qui nous passe par la tête, mais faisant pleinement ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. À toi revient toute la gloire au nom de Jésus. Assiste-moi, aide-moi par ton Esprit Saint. Tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen et Amen. Pour répondre à cette question, c'est quoi servir Dieu ou en quoi cela consiste? Finalement, quand on réalise ce verset qu'on vient de lire dans la version seconde, je me permets de la lire dans une autre version, la version Parole de vie. Ce même verset, Jean chapitre 12, verset 26, se prononce de la manière suivante dans cette version Parole de vie. « Celui qui veut me servir doit me suivre et mon serviteur sera là où je suis. » Mon Père récompensera celui qui me servira. Il y a une première réponse pour nous. Et cette première réponse, c'est, eh bien, pour servir Dieu, c'est quoi ? Servir Dieu consiste, ni plus ni moins, à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le premier point. Alors peut-être que certains ne s'attendaient pas à cette réponse. Mais servir Dieu, finalement, consiste à suivre Jésus-Christ. Or, suivre Jésus, eh bien, à quoi cela consiste ? Eh bien, ça consiste premièrement à faire du Seigneur Jésus notre Sauveur et notre Maître. C'est ça, suivre le Seigneur. C'est ça le point de départ. C'est à un moment donné, eh bien, pleinement réaliser que nous étions pécheurs et avoir par la suite expérimenté ce qu'on appelle la repentance. Implorer la grâce de Dieu, confesser nos péchés, non pas à des hommes, mais à Dieu, car c'est lui avant tout que nous avons offensé, et réellement demander pardon au Seigneur. Et puis aussi vivre ce qu'on appelle la conversion, car il faut se repentir de ses péchés, et puis après se convertir. Alors certains pourraient dire, mais c'est quoi la différence ? Convertir à Dieu, c'est eh bien, prendre la décision de se, littéralement se détourner de nos mauvaises voies, se détourner de cette ancienne vie sans Dieu, et se tourner littéralement vers Dieu. Même dans le milieu professionnel, on peut parler de conversion. Il y a des gens qui, à l'époque, par exemple, étaient ingénieurs et puis ils sont passés boulangers. Alors certains pourraient dire, mais il est passé du coq à l'âne, il s'est réellement converti. C'est ça la conversion. On ne regarde plus à cette ancienne vie sans Dieu, mais on décide aujourd'hui de s'engager avec Dieu. Et c'est pour cela que la conversion doit être aussi accompagnée par le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est d'une manière publique où je vais dire, mais Seigneur, ma vie maintenant, elle ne m'appartient plus, elle est à toi. J'étais esclave du péché, on l'a chanté. Mais il ne faudrait pas que ce soit seulement que des chants. Mais c'est des choses que nous avons réalisées. Mais toi, tu es venu et tu m'as sauvé. Tu m'as délivré, alléluia, du péché. Maintenant, ma vie, elle t'appartient. Et devant tous, devant le monde physique, mais devant le monde spirituel, je veux m'engager. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rappelez de ce jour où vous avez pris, alléluia, cet engagement avec le Seigneur ? Ah, je me rappelle comme si c'était hier, le 17 mai 1987. Je ne vous dirai pas mon âge. Ce que je me rappelle, c'est que l'eau était bien froide. Pourquoi ? Parce que ça s'est passé sur l'île de la Martinique. Et les vagues qui venaient vers moi me donnaient un petit peu, être essoufflé. Et c'était bien froid. Et on me posait la question, veux-tu t'engager avec le Seigneur ? Oui ! Et je crois que ça a résonné dans le cœur de Dieu. Les anges étaient dans la joie, le Père Céleste. Et à ce moment-là, je suis entré dans la grande famille de Dieu. À ce moment-là, j'ai montré à tous que j'ai décidé de suivre Jésus. Vous connaissez ce petit cœur ? Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin. Sans jamais reculer. C'est tellement important, se convertir à Dieu, se repentir. Et quand on a bien vit ces choses d'une manière sincère et avec foi, quand de tout notre cœur nous abandonnons, nous décidons de nous détourner de notre ancienne voie, il y a un miracle qui se produit, mais ça nous dépasse. Ce n'est pas notre part, c'est celle de Dieu. Car dans la repentance et la conversion, il faut qu'il y ait une part spirituelle. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vienne prendre le relais. Et nous donne à expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça ne s'explique pas, mes amis. Ça se vit. Jésus a dit, de toute façon, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il faut que vous naissiez de nouveau, que vous naissiez d'eau et d'esprit. Il y a un changement qui se passe. On ne comprend pas. J'entends ces témoignages où certaines personnes disent, mais j'avais l'habitude bien de faire ceci et cela. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. C'est la puissance de la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu nous donne à naître. Et à ce moment-là, nous devenons, sur le plan spirituel, des enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Et c'est là toute la différence. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Même ceux qui sont à l'extérieur sont des créatures de Dieu que Dieu aime. Mais on devient enfant de Dieu. Et on devient enfant de Dieu, à quel moment ? Lorsque nous acceptons cette lumière qui est venue dans le monde. Et cette lumière, c'est Jésus. C'est lui la lumière du monde. Et comme le dit l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 12, il nous a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu donc cette lumière, Jésus donc, qui est venu parmi les hommes, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À un moment donné, on a cette conviction, Dieu lui-même par son esprit nous rappelle au plus profond de nous-mêmes que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes enfants de Dieu ? Qui reconnaît qu'il est enfant de Dieu ? Est-ce que c'est haut que de main qui se lève ? Et combien, mon ami, j'aurais aimé que ta main aussi se lève ? Parce que Dieu veut aussi que tu sois enfant de Dieu. Oui, pour suivre le Seigneur, il faut qu'il y ait cette rencontre. Non pas entrer dans une religion, frères et sœurs, où on a compris déjà, longtemps déjà, que ce n'est pas une question de religion. Mais c'est une question de rencontre avec le Seigneur, de ce changement. Dieu est véritablement réel. Et il veut que nous ne puissions pas rester eh bien, dans la perdition, dans la condamnation éternelle, mais que nous puissions hériter de la vie éternelle. Et pour cela, il faut qu'on décide de suivre Jésus. Et nous venons de le voir, suivre Jésus, c'est abandonner cette ancienne vie, c'est se convertir à Dieu pour, en retour, alléluia, servir le Dieu vivant et vrai. C'est ce qu'a expérimenté nos amis à l'époque, eh bien, les chrétiens de la ville de Thessalonique. 1 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 9. Regardez ce passage et qui... J'ai envie de dire, résume ce que nous venons de voir. 1 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 9, car on raconte à notre sujet, c'est l'apôtre Paul qui parle, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. On le raconte parce que c'est visible, on le raconte parce que c'est palpable. Je ne peux pas dire je suis converti et puis finalement je n'ai pas évolué, je n'ai pas bougé, il n'y a pas un changement. Et les gens qui nous voient vivre autour... peuvent remarquer ce changement, mais tu as notre langage, tu as notre comportement, à commencer par les collègues de travail. Et comment vous êtes converti à Dieu ? En abandonnant les idoles, toute cette ancienne vie sans Dieu, cette vie d'égarement, pour, la préposition pour, servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir. Il faut d'abord passer par la conversion. Il faut d'abord choisir de suivre Jésus avant de prétendre aller lui servir Dieu. Et ne vous inquiétez pas, lorsque réellement nous nous convertissons, le Saint-Esprit met dans nos cœurs le désir de pouvoir servir Dieu. Il y a des gens même instinctivement, automatiquement, dès qu'ils ont donné leur cœur au Seigneur, ils ont eu cette envie eh bien, de pouvoir être à la disposition du Seigneur et de pouvoir pleinement le servir. Servir Dieu, j'ai envie de dire, est la réponse du vrai croyant face à l'amour que Dieu lui a manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi je le dis, et ça j'ouvrirai très rapidement, je fermerai la parenthèse, vouloir servir Dieu sans réellement le connaître, c'est à mon sens un non-sens, je ne fais pas un jeu de mots. Mais vouloir servir Dieu sans réellement nous convertir, sans réellement avoir une intimité, une relation personnelle avec Dieu, c'est un non-sens. Et je voudrais juste vous le confirmer avec juste un passage de l'Ancien Testament. C'est David, quand il arrive à la fin de sa vie, il appelle à son chevet son fils, l'un de ses fils, Salomon, qui allait prendre sa place en tant que roi. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Et regardez le merveilleux conseil que David donne à son fils. Il lui dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. On peut lire la suite, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que nous venons de lire. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que ce papa dit à son fils. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Première chose, connaître le Dieu. Alléluia, vivant et vrai. Et deuxième chose, avec cette conjonction de coordination et, sers-le d'un cœur dévoué. Pour ça que je dis, effectivement, donc première étape, cherche à connaître Dieu, cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu, pleinement, pour résumer, se convertir à Dieu, pour ensuite eh bien, prétendre le suivre, et donc le suivre. Et c'est, j'ai envie de le dire, c'est ce que nous devons eh bien, dire à nos jeunes gens, à nos jeunes hommes, nos jeunes filles, nos adolescents. Pour la plupart, vous avez certainement vos enfants qui ont entendu parler de l'Évangile depuis très jeune, puis qui ont grandi, mais qui ne sont toujours pas convertis. Et c'est là qu'il faut être patient et ne certainement pas mettre la charrue avant les bœufs. Et nous avons besoin eh bien, de répéter ce qu'a dit eh bien, David à l'adresse de son propre fils. Connais d'abord le Dieu. Vous savez, il y a ces petits jeunes qui sont pleins d'engouement et c'est bien. Et ils veulent servir Dieu et pleinement s'engager. Mais avant de pouvoir s'engager, mon fils, ma fille, jeune homme, jeune fille, cherche à connaître Dieu. Approche-toi de lui et lui s'approchera de toi. Convertis-toi, donne-toi à Jésus-Christ entièrement. Et après, ne t'inquiète pas, le Seigneur lui-même eh bien, se révélera à toi et te montrera eh bien, les desseins, les plans, le service auquel il t'appelle. Car Dieu veut eh bien, employer chacun de ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a un service pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de se jalouser les uns les autres. et un service qui est plein et qui va correspondre à notre plein épanouissement. Ce que je voudrais dire dans ce premier point, c'est que servir Dieu dans le vrai sens du terme, au sens propre du terme, ne concerne pas les inconvertis. Ici, dans cette église locale, il n'y a pas, dans une fonction, dans l'église, eh bien, un inconverti eh bien, qui pourrait eh bien, servir Dieu. Ce serait un non-sens. Comment servir quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a aucune relation? C'est juste impossible. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi. Hein. Mais pour moi, servir Dieu, dans le vrai sens du terme, concerne les chrétiens qui sont nés nouveaux, qui sont, eh bien, par conséquent, enfants de Dieu, qui appartiennent à Dieu et qui marchent dans les voies droites de Dieu. Parce que servir Dieu, excusez-moi, hein, je vous le dis, lorsque nous servons Dieu, nous touchons des choses saintes. Pourquoi je dis cela? Parce que nous servons un Dieu qui est saint. Et il est important que nous puissions, comme dit dans l'Ancien Testament, eh bien, je ne m'appelle plus quel auteur, c'est dans le livre d'Ésaïe, où je ne sais plus, où il dit, il s'adresse aux Lévites et il dit, mais purifiez vos mains, vous qui portez les vases de l'Éternel, car notre Dieu, il est saint. Il est redoutable. C'est sérieux ce que nous faisons. Nous travaillons pour le royaume des cieux. Nous travaillons au salut des âmes. Notre service eh bien, va aussi dépendre l'éternité de certaines personnes. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, mais nous le verrons par la suite. Si nous servons Dieu et nous ne réalisons pas pour qui nous servons, nous risquons de faire fausse route. Nous risquons d'être à côté de la plaque. Mais quand nous servons Dieu, nous devons le faire avec crainte et tremblement, en réalisant celui qui a même été jusqu'à donner son Fils Jésus-Christ, pour qu'en retour, nous soyons pardonnés de nos péchés. Quel amour! Quelle grâce! En quoi consiste le service de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire, servir Dieu? On vient de le voir, premièrement, servir Dieu consiste à suivre Jésus. Mais pas que. Allons un peu plus loin. Servir Dieu consiste aussi à suivre Dieu dans ce qu'il a prévu pour nous. Et je nous renvoie dans ce que nous venons de lire. Jean chapitre 12 et le verset 26. Quand il est dit, Jean chapitre 12 verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et Jésus précise, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et j'aime à le dire, c'est pas à nous de dire, mais Seigneur, j'ai envie d'aller là-bas, toi suis-moi, car je crois que là, il y a un service qui va te plaire. Non, il est dit, et là où je suis, là aussi, elle sera mon serviteur des idées, des œuvres, des activités que nous pourrions proposer au Seigneur pour le servir. J'ai envie de dire, il y en a à foison. Mais ce qui nous importe, c'est de pouvoir suivre Jésus dans ce que lui a prévu pour chacune de nos vies. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ce que je dis est simple? La vérité que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que Dieu, à l'avance, a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Et combien il a été inspiré, et merci Seigneur pour cet homme de Dieu qui s'est levé, qui, pour servir non seulement Dieu, mais ses frères et ses sœurs. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il n'y a pas plus beau comme verset. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. J'ai envie de nous dire, nous avons été créés deux fois. Première fois pour venir dans ce monde physique. Mais spirituellement parlant, nous avons été recréés. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour un but, on retrouve notre proposition, pour de bonnes œuvres. Autrement dit, pour effectuer différents services que Dieu a préparés d'avance. Nul besoin de se tracasser, nul besoin de dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour le... Dieu a tout préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Lui qui nous connaît parfaitement, il sait comment nous utiliser. Vous savez qu'il connaît notre personnalité ? Il connaît notre personnalité, il connaît notre caractère, il connaît notre morphologie, il connaît notre physionomie, il connaît nos capacités. Je vais même plus loin, il connaît même nos limites. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un plan, il y a un service spécifique pour chacun d'entre nous. Et ça, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Ce Dieu, il a préparé de bonnes œuvres au travers desquelles il désire que nous puissions pleinement le servir. Nous qui appartenons à Dieu, écoutez bien, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes tous appelés les uns les autres à pouvoir servir Dieu. Est-ce que vous le savez ? Le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui monte deux ou trois marches et qui est devant vous et qui vous parle. On a compris que nous sommes tous serviteurs de Dieu, on y reviendra. Pour ne pas que quelqu'un ce matin dise « mais moi je m'exclus, attention à cette fausse humilité ». Et on a vite besoin de se mettre à l'œuvre les uns les autres. Je vous donne quelques exemples. J'ai mis là sur mes notes. Certains, par exemple, sont appelés au travers de certains dons, des dons naturels. Et je vais vous donner des exemples pour que ça soit concret. Il y a des personnes, ils ont des certaines capacités. Pour citer, par exemple, donc un des musiciens, il est où le petit Nathanaël? Il est où? Il est là. Je l'ai vu commencer à la guitare. Peu cher, quand il joue, moi je me cache. Il joue très bien, c'est une capacité, je te le dis. C'est Dieu qui t'a donné ces choses-là. C'est pour ça qu'il est dit autre part, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est une capacité. Et je peux comprendre que Nathanaël aussi, entre autres, a sa place au niveau de la musique. Alors certains ont des dons naturels et les mettent à la disposition du Seigneur. D'autres ont des dons spirituels. Béni soit Dieu pour les manifestations des dons spirituels. Il y en a 9. On y reviendra lors de notre étude les mardis soirs sur la personne du Saint-Esprit. On n'en a pas fini. Mais certains exercent la parole de connaissance. Véritablement, quand je sors et je salue les personnes, il y a des personnes qui viennent même pour les premières fois et me disent « mais oh, ce qui a été dit là, ce que monsieur a dit ou ce que madame a dit, oh, ça m'a bouleversé, mais qui lui a raconté ma vie ?» Ça s'appelle une parole de connaissance. Merci Seigneur pour la prophétie. Un jour, il me faut m'arrêter sur ce qu'est le don de prophétie. Le don de prophétie a 3 buts. Celui de pouvoir exhorter, consoler et édifier. Pas autre chose. Et nous pouvons tous prophétiser. À un moment donné, le Saint-Esprit peut nous saisir. Non pas pour que nous puissions donner notre propre pensée, mais saisi par le Saint-Esprit, nous communiquons la pensée de Dieu. D'autres ont donc le don, des dons spirituels, et plaise à Dieu qui est les autres dons, parce qu'il y en a 9, qui est don de miracles. Amen. Don de la foi. Ça ne vous intéresserait pas d'avoir le don de la foi? D'autres sont appelés à servir Dieu en exerçant un ministère qu'on appelle le ministère don. Vous savez qu'il y en a 5. Allez, aidez-moi. Le premier, c'est le ministère d'apôtre. Le deuxième, tout ça s'écrit dans la Bible. Moi, j'invente rien. Le deuxième, c'est justement le ministère de prophète. Pour la petite histoire, ministère veut dire service. Ne vous prenez pas la tête. Nous avons tous potentiellement le ministère de la réconciliation. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous avons tous des ministères. Le troisième ministère, c'est celui de l'évangéliste. Le quatrième, c'est celui de pasteur. Et le cinquième, c'est celui de docteur ou enseignant, pour être un peu plus d'époque. Et toutes ces choses, Dieu les donne à qui il veut. Là, on ne choisit pas. C'est Dieu qui appelle. Et il fait comme il veut. Son choix, ce n'est pas nous de le remettre en cause. Il fait comme il veut, avec qui il veut. Je m'en rends compte. Parce que moi, personnellement, je ne me serais pas choisi. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas, il sait ce qu'il fait. Et il n'est jamais surpris de quoi que ce soit. D'autres peuvent être aussi appelés au travers de ministères, on va dire des ministères locaux. Il y a entre autres les anciens, j'en ai 2 à mes côtés, paix à Dieu qu'il y en ait d'autres. Ils sont là et à mes côtés, ils ont aussi cette capacité de pouvoir prêcher. Ils sont là pour surveiller effectivement également avec moi donc le troupeau et pour l'emmener à être paisible et être fin prêt pour le retour du Seigneur. Mais il y a aussi les ministères de diacres ou de diaconesses. Ça aussi, c'est biblique. Et plaise à Dieu qu'il y ait aussi des diacres et des diaconesses parmi nous. Le chrétien, en tout cas, est appelé à servir Dieu par ses biens et ses libéralités. Et permettez-moi juste quelques instants de parler de notre association culturelle, au travers duquel on peut faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Vous ne le savez pas, mais il y a peut-être, même parmi nous encore ce matin, des personnes qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils vont manger à midi? Et en toute discrétion, j'insiste sur ça. Nous sommes là pour répondre à ces différents besoins. Merci Seigneur pour ceux qui continuent à emmener des colis alimentaires. Il y a encore cette semaine, quelqu'un est venu, je tairai le nom. Je le vois, il me regarde et je le vois. Merci pour ce que vous faites. Ça, c'est, on peut servir Dieu par nos libéralités, pour bénir l'œuvre de Dieu, pour encourager, pour, alléluia, que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Nous sommes aussi également appelés à pouvoir, à bien aussi, servir Dieu au travers du temps qu'on pourrait mettre à la disposition, au service de nos frères et de nos sœurs. Et là, ça me donne encore à penser, et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont aidé à déménager Didier, comme notre amie Leslie. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai eu de ses nouvelles. Leslie, toute contente, a dit, je t'en prie, remercie l'Église. Tout ça, c'est des services. Alors, bien sûr, le pasteur ne l'a pas vu. Alors, peut-être le frère, la sœur ne l'a pas vu. Mais Dieu a inscrit, il a incarné le Seigneur. Je peux vous dire dessus, tout est inscrit. Je ne sais pas comment il fait, mais il est Dieu. Il saura nous rappeler même le verre d'eau, tous ces instants. Parce que ce temps que vous avez mis à disposition de votre frère, vous aurez pu l'utiliser pour faire autre chose, quelque chose qui vous plaît. Mais vous avez choisi de servir Dieu au travers de votre temps. Et ça, le Seigneur, il sait peser ces choses. D'ailleurs, il le dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 6, verset 10. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Vous savez, nous, on peut être amnésique à des moments. On oublie facilement. D'ailleurs, la Bible nous parle qu'on est comme semblable à des auditeurs oublieux. Mais lui, il n'a pas de problème d'amnésie, le Seigneur. Il sait parfaitement. Il pourrait nous parler de nous comme jamais nous avons entendu. Nous avons entendu qu'on ait parlé de nous de cette façon-là. Certains chrétiens peuvent servir les desseins de Dieu à travers même leur travail séculier. Et quand je préparais ces choses, je pensais à notre ami Joseph, qui malgré les déboires, les épreuves qu'il a pu traverser, cet homme a été à la bonne place. Et Dieu avait en dessein que par la position qu'il avait, puisqu'il était premier ministre, on va dire, sur tout le territoire égyptien. Et là, par cette position dans la société, il a pu non seulement secourir sa famille, mais aussi répondre au dessein de Dieu. Et je pourrais encore comme ça continuer la liste, mais d'une manière générale, le chrétien est appelé à servir Dieu à travers sa vie chrétienne. Lorsque nous prions, ce matin, ceux qui ont prié là, vous avez servi Dieu, même quand vous l'avez fait intérieurement dans votre cœur, vous avez servi Dieu. En adorant, lorsqu'on loue le Seigneur, certains encore se posent la question, pourquoi on chante? Mais quand je chante, je loue, je sers Dieu. D'ailleurs, à mon sens, le premier service consiste à adorer Dieu. Apprendre à remercier Dieu. Quelqu'un l'a dit, si justement, Seigneur, apprends-moi à te remercier jour après jour. Ça commence par cela, le service. On peut également servir Dieu par notre conduite. Et nous sommes appelés à servir Dieu par notre comportement. Parce que dans tous les cas, c'est soit nous servons les intérêts de Dieu, ou soit nous les desservons de par notre comportement, nos attitudes. On peut aussi servir Dieu lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on témoigne de lui. On peut le servir à travers différentes activités de l'église locale. Est-ce que nettoyer l'église, est-ce que c'est un service ou pas? Ou est-ce que c'est un sous-service? Frères et sœurs, je peux vous dire que le Seigneur, au-delà même du fait que vous nettoyez, il regarde la manière que vous le faites. Et ce sera compliqué dans le ciel, en tout cas pas pour Dieu. Mais quelquefois, certains auront des récompenses qui équivaut peut-être juste parce qu'ils se sont appliqués à balayer la maison. Ils auront autant de récompenses que celui qui aura peut-être attiré des milliers d'âmes. Là, c'est le responsable du nettoyage qui a parlé. Frères et sœurs, ne soyons pas surpris parce que le Seigneur regarde au cœur et nous aurons besoin de parler du cœur du serviteur. Tout passe par là. Vous voulez servir Dieu ? Dieu va regarder avant tout votre cœur. Dans quelle disposition de cœur vous le faites? Je peux nettoyer, vite fait, allez, paf, je l'ai fait, ma conscience est tranquille. Et je peux le faire avec amour. Je peux le faire en pensant à Dieu. Je peux le faire comme si je nettoyais, comme si c'était chez moi. Et il n'y a que Dieu qui le voit, puisqu'il connaît nos cœurs, nos pensées, il connaît nos attitudes. C'est extraordinaire. Et j'ai envie de nous dire, si on est fidèle dans les petites choses, le Seigneur, il sera fidèle dans les grandes choses. Et il nous rendra, il permettra qu'on sera, il pourra nous confier de grandes choses. Excusez-moi, quand on est fidèle dans les petites choses, eh bien, lui nous permettra eh bien, de pouvoir faire aussi de grandes choses. Instruire les enfants, est-ce que c'est un service? Parmi les animateurs, animatrices, on a commencé à faire une annonce à ce niveau. On souhaiterait que eh bien, des hommes, des femmes, des enfants de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, convertis, qui suivent le Seigneur, puissent se lever pour instruire les enfants. Et combien cette tâche est aussi eh bien, importante. Être au vidéoprojecteur, être trésorier ou secrétaire, tout ça, n'est-ce pas des services? Alors, bien sûr, on pourrait continuer la liste, mais je m'arrête là. Quelqu'un pourrait ce matin me dire, mais au final, quel service Dieu, tu aimerais que je fasse? Et je pense que cette question, elle est pertinente. À un moment donné, il faut qu'on se la pose. Vous savez, quand on est dans le service de Dieu, on n'est plus occupé peut-être à regarder nos propres soucis, nos propres problèmes. On est eh bien, concentré sur la tâche que Dieu a à notre disposition et a placée pour nous. Alors la question, elle peut être dans l'esprit de plusieurs ce matin. Quel service Dieu désire que je fasse? Eh bien, je vous encourage à pouvoir vous tenir devant Dieu. Et tout simplement, demander à Dieu, comme d'ailleurs l'apôtre Paul l'a fait. Avez-vous remarqué que dès qu'il s'est converti, cet homme, il a posé à Dieu deux questions. La première question, pour ceux qui la savent, c'est quoi? Comment? Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus, eh bien, lui répond directement, je suis Jésus que tu persécutes. Et la deuxième question, que veux-tu que je fasse? Et cette question, elle est pour moi biblique. Et si vous la posez, eh bien, c'est bien de vous la poser. Dès sa conversion, cet homme a eu ce réflexe pour poser les deux questions. Oui, d'abord connaître. Connaître le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? On l'a dit tout à l'heure. Et la deuxième question, que veux-tu que je fasse? Et croyez-moi, eh bien, le Seigneur saura pleinement vous répondre. Oui, disons au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Ma vie, dorénavant, elle t'appartient. Et mon seul désir, c'est de pouvoir te plaire. C'est de pouvoir eh bien, être participant. Dieu a fait de nous ouvriers, co-ouvriers avec lui. Mais quelle grâce, quel privilège, frères et sœurs. Servir Dieu consiste à suivre Jésus. Et nous venons de le voir, servir Dieu consiste à suivre Dieu dans ce qu'il a prévu pour nos vies. Je voudrais terminer, je ne serai pas long ce matin, juste je reviens à cette question, en quoi consiste le fait de servir Dieu? Eh bien, servir Dieu consiste à obéir à Dieu. Mais vous l'avez compris, obéir à Dieu, pour obéir à Dieu, il faut d'abord entendre sa voix, oui ou non? Comment vais-je obéir à Dieu s'il n'y a pas de connexion, si je n'entends pas sa voix, si je n'entends pas ses directives? Samuel a dû apprendre à écouter la voix de Dieu avant de servir ce dernier, dans des desseins certainement qui le dépassaient à l'époque, car Dieu voulait faire de lui non seulement un juge à l'époque, mais aussi un grand prophète. Le prophète Samuel était extraordinaire. C'est lui d'ailleurs qui a oint, qui a choisi, entre autres, David pour être roi sur tout Israël, l'homme selon le cœur de Dieu. Noé a dû aussi également écouter la voix de Dieu. Et il avait besoin de bien écarquiller ses oreilles, excusez-moi de l'expression, avant d'entreprendre la construction de l'arche. Une construction qui allait durer près d'un siècle, selon les commentateurs. Philippe aussi entendit la voix de l'Esprit de Dieu qui lui a dit « Avance et approche-toi de ce char » dans le livre des Actes des Apôtres. Et il est important pour nous, pour obéir, pour servir pleinement Dieu, il nous faut obéir et pour obéir, il nous faut aussi apprendre à écouter la voix de Dieu. Quand on est reparti de la Martinique, bien évidemment, avant de prendre l'avion, il nous faut enregistrer les bagages. Et on arrive devant le comptoir, l'un des différents comptoirs où on dépose les valises. Et il y a un agent en face de moi, je le vois, il me regarde, je le regarde. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, dis-lui, non seulement eh bien, qu'il est aimé de Dieu et que Dieu le cherche. Oh, qu'est-ce que je fais? J'entends la voix de Dieu. Qu'est-ce que je fais? On obéit. Parce que écouter, dans le sens grec, même hébreu du terme, écouter veut dire dans l'intention d'obéir. Alors Dieu me dit ça. Je lui ai dit que Dieu vous aime. Il m'a écarquillé les yeux, il m'a dit depuis un certain temps, il est en train de chercher Dieu. Et alors qu'il y avait du monde partout, je l'ai pris rapidement la main, je ne pouvais pas rester et faire un culte avec lui. J'ai pris la main et j'ai dit on va prier. Et j'ai prié spontanément. Je ne sais pas si je vais le retrouver, si j'aurai l'occasion de le revoir, peut-être que je le verrai au ciel. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, et à Dieu revient toute la gloire, eh bien, j'étais assez sensible eh bien, pour pouvoir faire ce que Dieu nous dit de faire. il nous faut écouter. Oui, servir Dieu consiste à obéir à Dieu, d'après, bien sûr, les strictes instructions que nous recevons de lui. Un bon serviteur ne discute pas les ordres qu'il reçoit de son maître. Il ne négocie pas la parole qui sort de la bouche de Dieu. « Ah, mais Seigneur, tu me demandes ça ? Non, ça, je ne suis pas d'accord. Là, tu vois pas bien. No comment. » Un bon serviteur ne diffère pas non plus d'obéir à son maître. Psaume 119, verset 60, nous dit la chose suivante. « Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. » Et soyons honnêtes, la vraie question que nous pourrions nous poser les uns les autres, est-ce que nous sommes toujours disposés à obéir à la volonté de Dieu ? Toujours est-il, servir Dieu consiste à obéir à Dieu, quel qu'en soit le prix. Et pour cela, on a besoin d'emprunter, j'ai envie de dire, la prière qu'a formulée David lorsqu'il, rappelez-vous, il s'est repenti de sa précédente adultère, son précédent adultère avec une certaine Bathsheba. Il va dire dans le psaume 51 au verset 14 cette merveilleuse prière que j'aimerais placer devant vos yeux. Psaume chapitre 51 verset 14, si ma sœur tu arrives à le trouver, il dit: Seigneur, donne-moi la joie de ton salut. Et il rajoute surtout: qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Nous avons besoin d'avoir de la bonne volonté. Seigneur, donne-moi cette bonne volonté pour que je puisse, à l'instant où j'entends ta voix, tout simplement obéir. Frères et sœurs, il y a une part pour chacun d'entre nous. Dieu compte sur l'Église pour que nous puissions être ses bouches, ses oreilles, ses yeux, eh bien dans ce monde qui est de plus en plus sombre dans le désespoir. Il y a peut-être des personnes, vous savez, donc pas plus tard que quelques jours, il y a une personne qui est venue en détresse. Elle habite dans les parages, autour de l'église. Et on voyait bien la détresse dans le cœur de cette personne. Elle m'a dit: venez m'aider. Et je suis parti chez elle et cette personne était en larmes. On a pris le temps de pouvoir prier ensemble. Il y a des besoins qui nous côtoient, on ne le sait même pas. Et on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et pour cela, il faut que nous nous levions, que nous puissions servir. Seigneur, je veux te servir dans ma génération. Et j'aime à le dire parce que c'est une réalité. Moi, je me suis régalé dans ma vie professionnelle. Je ne traînais pas les pieds pour aller au travail. Mais à combien plus forte raison pour servir Dieu, nous voudrions être plein de zèle, servir Christ avec zèle, avec persévérance, avec passion. Et le Seigneur a besoin par son esprit de renouveler ces choses afin que nous puissions être ses mains, ses instruments entre ses mains. Amen, frères et sœurs. Que dire en conclusion ? Terminons tout simplement en revenant à notre texte d'introduction, Jean chapitre 12 et le verset 26. Nous avons lu: si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Deuxièmement, on a vu: si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Deuxième point. Et on vient de voir qu'il est important, bien sûr, d'obéir à la voix de Dieu. Mais je note avec vous cette dernière partie de ce verset 26. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dieu, notre Père céleste, et je l'ai dit tout à l'heure, honorera le service que nous aurons effectué pour l'avancement de son royaume. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 58. Il dit ainsi: mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Parce que ne vous inquiétez pas, quand le diable, et je ne vais pas lui donner d'importance, mais quand le diable voit que nous nous levons pour le Seigneur, vous comprenez bien, eh bien qu'il ne va pas rester les bras croisés, hein, parce que lui, il sait que son temps est compté. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul précise bien: travailler de mieux en mieux, pas de plus en plus. Aujourd'hui, même parmi les serviteurs de Dieu, il y a des burn-out. Hein ? Est-ce que vous savez ça ? L'activisme, attention, Dieu n'a jamais demandé l'activisme. Il veut qu'on travaille efficacement. Et à mon sens, servir Dieu de mieux en mieux, avec efficacité, avec zèle, passe par le fait que nous avons besoin d'abord de comprendre que servir Dieu, c'est premièrement suivre Jésus-Christ. Nous avons aussi besoin de comprendre que servir Dieu consiste aussi à suivre Dieu dans ce qu'il a prévu pour nos vies. Et puis enfin, servir Dieu consiste à obéir scrupuleusement à la voix de Dieu. Frères et sœurs, on va travailler à cela. On va travailler pour que l'église de d'Istres puisse se lever comme un seul homme et servir Dieu, chacun dans, à son poste, chacun à sa place, avec un cœur, alléluia, qui va réjouir le cœur du Seigneur, avec une passion, avec un zèle que seul le Saint-Esprit est capable de nous donner, afin que nous soyons inébranlables, fermes jusqu'au retour du Seigneur, parce que le Seigneur, il est à la porte, et heureux celui ou celle que le Seigneur trouvera en train de le servir. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu veux nous interpeller les uns les autres. Tu veux nous aider à pouvoir nous lever. Car certes, nous l'avons compris, si nous avons été sauvés, c'est aussi pour te suivre. Mais Seigneur, aide-nous avant tout à te suivre, toi. Aide-nous à être au clair concernant notre conversion. Aide-nous à rendre déjà un bon témoignage. Puis aide-nous à être éclairés sur là où tu veux que nous puissions te servir. Aide-nous à être là où tu veux que nous soyons, à notre poste. Aide-nous à écouter, mais aussi et surtout à obéir à ta voix. Seigneur, sers-toi de nos vies. Sers-toi de chacun d'entre nous. Pardon quand nous nous sommes relâchés, pardon Seigneur Père quand nous avons négligé, pardon quand Seigneur Père nous nous sommes assoupis, mais tu nous veux nous voir travaillant de mieux en mieux à ton œuvre. Et sans ton Esprit Saint, nous pourrions y arriver. Bénis l'Église d'Istres, aide-nous à travailler au salut des âmes, aide-nous à être des bénédictions les uns pour les autres, aide-nous à Seigneur servir les frères, les sœurs, aide-nous à Seigneur Père exceller Seigneur mon Dieu dans les tâches, les différentes tâches, activités, Seigneur que nous avons au sein même de cette église locale, aide-nous à te servir au travail, aide-nous à te servir dans nos familles, aide-nous à te servir là où tu nous places. Aide-nous à te servir au travers de notre piété, dans notre communion personnelle. Aide-nous à te servir au travers de la prière, de tous ces temps de méditation que, Seigneur, nous avons avec toi. Aide-nous à te servir par les dons spirituels. Aide-nous à te servir par les dons naturels. Aide-nous à te servir en mettant en pratique cette parole. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Aide-nous à te servir loin de la paresse. Aide-nous à te servir avec beaucoup de zèle. Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Fais-nous grâce au nom de Jésus et pardonne-nous. Tu vois, Seigneur, ce temps de jeûne et de prière qui approche. Seigneur, fais-nous grâce en ce temps-là. Et donne-nous, Seigneur Père mon Dieu, avoir de véritables fardeaux pour le salut des âmes au nom de Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs. Je te le demande pour la seule gloire de ton nom. Amen.